C'est une série d'ouvrir Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et vous savez, moi j'aime cette série parce que c'est une série où on fait juste parler de Dieu. On veut apprendre à le connaître, on veut redécouvrir sa nature. Bien sûr, la Trinité, on l'a vu, c'est quelque chose de magnifique, mais aussi de mystérieux. Et on parle, dans cette série, on parle de Dieu. Et qui est d'accord pour moi pour dire qu'il n'y a rien de mieux pour nous que de connaître Dieu davantage. Amen. Et ce matin, j'ai un message et je voudrais qu'on regarde au Fils, à Dieu le Fils, Jésus. Et le titre de mon message, c'est un don parfait. Avant d'y aller, on va prendre un petit moment de prière. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton Église. Et ce matin, on se présente devant toi. On veut vraiment être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. Viens parler à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs, Seigneur Jésus. Permets que ce message que tu m'as mis sur mon cœur, je puisse le communiquer de façon claire. Et viens parler à nos cœurs par ton esprit, Seigneur. Jésus, on a soif de te connaître davantage, on a soif d'en apprendre davantage sur toi. Seigneur, viens nous révéler qui tu es. On veut plus saisir qui tu es, ce Dieu merveilleux, ce Dieu magnifique que tu es. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être invité quelque part, d'être reçu chez quelqu'un, puis là, tu es accueilli, mais plus ou moins bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Que tu arrives, tu es invité, puis là, tu avais un peu des attentes, puis finalement, ces attentes-là ont été déçues. Moi, j'ai eu l'occasion, avec mes projets de musique, j'ai eu l'occasion de faire des concerts dans des églises, ici au Québec et aussi en France. Et ce qui se passait souvent dans les tournées, c'est que la plupart du temps, c'était rare qu'on soit logé à l'hôtel. La plupart du temps, on allait chez des gens de l'église qui voulaient nous accueillir. Et la plupart du temps, ça se passait super bien. Mais il y avait toujours un petit concours entre les membres du groupe, les musiciens, tout ça. On n'était pas souvent pas tous au même endroit. On allait deux chez un endroit, deux chez l'autre, ou des fois un tout seul. Et il y avait comme un concours, on voulait pogner la meilleure maison. Ceux qui allaient le mieux nous accueillir. Et il y avait de tout. Des fois, moi, ça m'est déjà arrivé de devoir dormir en cuillère avec mon drummer, dans un vieux divan complètement défoncé. Et non seulement ça, mais en plus, on devait dormir avec la sueur accumulée dans la soirée parce que la douche était tellement sale qu'on ne voulait pas aller dedans. Donc on était moyennement accueillis. Mais il y avait d'autres fois, il y avait un endroit en particulier où on retournait tellement on aimait ça chaque année. On appelait ça le palace. Puis quand on arrivait à chaque fois, c'était la grosse table pleine de charcuterie, de fromage, de produits du terroir. Puis la maison, c'était quelque chose, la douche, je ne comprenais même pas comment ça fonctionnait tellement il y avait de boutons partout. Il y avait une piscine intérieure, c'était vraiment le fun. Tu peux être reçu quelque part, mais ça ne veut pas dire que tu vas être bien accueilli. N'est-ce pas? Pour être bien accueilli, ça va coûter quelque chose à quelqu'un. Ça va coûter quelque chose à la personne qui t'accueille. Il va falloir qu'elle se donne, qu'elle se prépare. Il va falloir qu'elle prépare un repas, qu'elle achète de la nourriture. Il va falloir qu'elle prépare ton lit, ta chambre, etc. Et il va falloir qu'elle ait les réflexes aussi de dire qu'est-ce que je dois préparer pour qu'il se sente bien. La personne va littéralement nous accueillir dans notre intimité, on va un peu la déranger, ça va lui coûter quelque chose. Et nous, ici, à l'église Nouvelle Vie, Charlevoix, le dimanche matin, notre rôle est d'accueillir chaque personne qui va venir, que ce soit des personnes de l'extérieur ou les personnes, les chrétiens. Notre rôle, c'est d'accueillir chaque personne, et l'église est là pour faire grandir, pour amener les gens à grandir dans leur foi, dans leur connaissance de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas seulement, souvent on met beaucoup l'accent sur l'extérieur, mais ce n'est pas seulement les nouveaux qui arrivent qui doivent être bien accueillis. Chaque personne ici a besoin de grandir dans sa foi, a besoin d'avancer, et l'Église est là pour ça. Et ce matin, je vous propose de regarder un passage de l'Évangile de Jean, et c'est un moment assez particulier que les disciples vont vivre avec Jésus. Jésus va prendre soin d'eux d'une façon toute particulière. Il va prendre le rôle de quelqu'un qui accueille vraiment comme un hôte parfait. Tu ne fais pas mieux que ça. Ça se trouve dans Jean, chapitre 13, versets 1 à 16. Alors c'est un passage assez long, mais je vais le lire, puis je vais parfois passer d'un verset à l'autre pour sauter quelques versets. Donc vous pouvez le suivre si vous avez une Bible avec vous. Jean chapitre 13, versets 1 à 16. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Puis là, on va aller au verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il noua autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon-Pierre, celui-ci protesta et dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Et Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas pour l'instant, tu le comprendras plus tard. » Mais Pierre lui répliqua « Non, tu ne me laveras pas les pieds, sûrement pas. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, il n'y a plus rien entre toi et moi. » On va aller plus loin au verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit son vêtement et se remit à table. Alors il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. En fait, ce moment-là prend place 6 jours avant la mort de Jésus. Jésus est dans les derniers moments qu'il passe avec ses disciples. Et dans ces moments, on voit vraiment dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Jean, que Jésus prend du temps avec ses disciples pour les préparer. Une fois qu'il va revenir, on le sait, une fois qu'il va être ressuscité, il va les envoyer vers la mission, faire de toutes les nations des disciples. Mais dans ce moment, avant sa mort, il les prépare vraiment à en fait vivre ensemble, à vivre l'Église. Parce que ce groupe-là de disciples, c'est le début de l'Église. C'est comme, si on veut, la toute première Église. Et là, les disciples viennent de passer 3 ans avec Jésus. Et sûrement qu'ils devaient être en feu. Ils ont passé 3 ans à parcourir le pays, à guérir des malades, à chasser des démons, à libérer les captifs, à avoir des miracles comme ça n'a pas d'allure. Puis là, Jésus les prépare. Il dit, vous allez devoir vivre ensemble. Il leur apprend à se laver les pieds les uns des autres. Il leur apprend à prendre soin les uns des autres, à se mettre au service l'un de l'autre. Et ça, par cette image de lui qui va s'abaisser, puis qui va leur laver les pieds. Et au verset 14, il dit, si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. En fait, Jésus nous appelle à prendre soin les uns des autres, comme lui, il l'a fait pour nous. Chacun de nous, dans l'Église, on est appelé à prendre soin de l'autre. Et en fait, pour la simple raison que si Jésus a pris cette position, il l'a fait pour nous, il nous a servi, il s'est donné pour nous, il a pris la position inférieure, à plus forte raison, nous, on doit prendre cette position, l'un envers l'autre, dans l'Église, de se servir les uns les autres. Et ce matin, je voudrais qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe ici, dans le texte qu'on vient de lire. Ici, les disciples sont à table avec Jésus. Ils sont en train de manger, et là, Jésus se lève, il enlève son vêtement, il met un tablier et se met à leur laver les pieds. Et à l'époque de Jésus, les gens ne mangeaient pas à table comme nous aujourd'hui. Ça ne se passait pas de la même façon. Les gens n'étaient pas assis sur une chaise à table avec un couteau et une fourchette. Comment ça se passait? C'est qu'il y avait la table, puis les gens se mettaient comme allongés un peu pour avoir l'image un peu à la romaine, comme on le voit des fois dans des illustrations, allongés sur le côté, côté gauche, appuyés sur le bras, comme ça, je ne sais pas trop. Et la table était là, puis ils mangeaient avec la main droite. Donc ils étaient allongés sur le côté, on voit l'image, tout le monde est allongé autour de la table, ils mangent avec la main droite, la main gauche servait à d'autres choses qu'on n'expliquera pas ce matin. Et ils étaient tous autour comme ça, et ce qui se passait concrètement, ce que ça signifiait, c'est que lorsque tu es allongé, comme ça, sur le côté, et qu'il y a quelqu'un à côté de toi, ben, tes pieds ne sont pas très loin de la personne, de l'assiette de l'autre. Et en particulier dans un pays comme ça, comme en Israël, où c'est un pays aride, on se déplace la plupart du temps à pied, et qui plus est en sandales, ça pouvait être moyennement agréable de manger à côté de quelqu'un qui n'a pas les pieds propres. Et là, ils sont en train de manger, mais ils ne sont pas lavés les pieds. Et la réalité, c'est que c'est moyennement le fun. C'est moyennement plaisant. Et ce qui passe, écoutez-moi bien, ce qui se passe, c'est que personne n'est vraiment bien de cette situation. Je ne suis pas bien parce que je sais que mon voisin, je le dérange un peu, puis je ne suis pas bien parce que mon autre voisin me dérange un peu avec ses pieds qui puent. Personne n'est vraiment bien, mais tout le monde s'en accommode. Tout le monde mange pareil. Tout le monde est là, puis on vit avec. Et lorsqu'on arrive à l'église, lorsqu'on vit en église entre chrétiens, ben on arrive avec nos pieds sales. on arrive avec notre propre crasse accumulée, avec nos fardeaux, avec nos défis, avec nos projets qui nous pèsent, avec notre emploi du temps chargé. Et si nous ne vivons pas l'Église comme Jésus nous l'enseigne ici, si on vient juste pour « manger », entre guillemets, pour entendre le message, passer un bon moment dans la présence de Dieu, ben, ce qui se passe, c'est qu'on repart le ventre plein, mais les pieds toujours aussi sales. Si on vient juste écouter, se nourrir, on repart le ventre plein, mais les pieds sales. Mais Jésus nous enseigne à nous laver les pieds les uns des autres. Et pour pouvoir faire ça, pardon, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'on lève les yeux de nos propres pieds. Il va falloir qu'on lève les yeux de nos pieds, puis qu'on aille s'informer. Dire, hey, c'est quoi que tu vis? Hey, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on réalise c'est quoi le besoin de l'autre. Mon frère vit avec une dépendance, ma sœur est endettée, un tel a un problème, se bat avec la dépression, un tel se bat avec la maladie, la souffrance. Et parce qu'on regarde à nos pieds à nous, on voit que nos pieds sont sales, puis on se dit, j'ai de la job à faire sur moi. Et des fois, le problème, ce n'est pas nécessairement qu'on est égoïste ou quoi que ce soit. Le problème, c'est juste qu'on se dit, qu'est-ce que je peux apporter? Si je ne suis pas capable de laver mes pieds à moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Mais ça, j'ai un petit secret pour vous. C'est gratuit. Ça, c'est un mensonge. J'imagine que la plupart d'entre vous, j'espère en tout cas, que vous vous lavez les pieds à l'occasion. Est-ce qu'il y a un amen ici ce matin? Lorsque tu te laves les pieds, t'es comme ça. T'es dans ta douche. Je sais pas comment vous faites là, moi, c'est à peu près comme ça, ok? Là, tu te frottes les pieds. Et qu'est-ce qui se passe là en ce moment? C'est que là, moi, je sais pas vous là, mais moi, ça tire un peu en arrière là. Ouais, c'est-à-dire. On n'est pas de même là, mais en tout cas, ça commence à tirer. Alors, imaginons que tout le monde est super souple, ok? Ou sinon, il y a l'autre option, il y a l'option comme ça. Mais là, tu sais, moi, je sais pas, chez moi, c'est une baignoire, c'est dangereux, là, il va se passer des affaires, je perds l'équilibre, tout ça. Bon, imaginons qu'on est tout souple. Donc là, on se lave les pieds. Là, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, dans à peu près 7 secondes et demie, je vais être complètement mauve. C'est pas nécessairement facile de se laver les pieds soi-même. Et le secret que je veux vous dire ce matin, c'est que regarde, on va prendre un exemple. Viens, Martin, pose ton pied ici. Plus qu'un pied. Là, regardez, je suis bien, je suis à l'aise. C'est bon. Ok, je vais retenir mon souffle. Je suis bien, on peut piquer une jasette, on est bien. Le secret, merci Martin. Le secret, c'est que c'est plus facile de laver les pieds des autres que de te laver les pieds soi-même. Amen. C'est toute qu'une image. Hein. C'est plus facile de laver les pieds des autres que de se laver les pieds soi-même. C'est plus facile de prendre soin d'un autre que de prendre soin de soi-même. Et l'Église est appelée à prendre soin les uns des autres. Oui, tu as des besoins. Et la question, ce n'est pas du tout de les négliger ce matin, de les ignorer, d'être dans le déni. Tu as des besoins, des factures à payer, mais tu es appelé à être éveillé aux besoins de l'autre, à ce que vit celui qui est à côté de toi. Et ça, c'est le mécanisme que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples. Le mécanisme que lorsque tu prends soin de l'autre, et que l'autre a cette vision aussi, qui prend soin de toi, ça avance super vite, ça va beaucoup mieux. La question ce matin, c'est est-ce que je m'intéresse à celui qui est à côté de moi? Pour plusieurs, ça fait des années qu'on est à l'église, est-ce que je m'intéresse, est-ce que je connais un peu plus que l'année dernière celui qui est à côté de moi? Celui que je vois chaque dimanche. Et là, on se rappelle que je parle de l'église. Jésus est en train de préparer ses disciples à la mission. On parle de l'église des chrétiens. Est-ce que je m'intéresse? Est-ce que je connais les besoins? Est-ce que je m'investis dans la vie de mon frère, de ma sœur? Est-ce que je donne de ma personne pour lui? Donc on revient à notre passage dans Jean 13. On était rendu à la constatation que tout le monde a les pieds sales. Et ce qui se faisait, ce qui était d'usage en Palestine au 1er siècle, donc à l'époque où ça se passe, c'est que l'hôte qui recevait des invités mettait à la disposition des gens une bassine à l'entrée. En fait, deux bassines. Une bassine avec de l'eau et une bassine vide. Et ce que faisaient les gens quand ils rentraient dans la maison, c'est qu'ils prenaient la bassine pleine, ils en versaient sur leurs pieds et ils se rinçaient les pieds comme ça. Ça, c'est ce qui se faisait dans la plupart des maisons. Mais les maisons les plus aisées, ceux qui avaient de l'argent, c'était la job de l'esclave. C'était l'esclave qui faisait le tour de la table. Il prenait les pieds des invités l'un après l'autre, il passait avec sa bassine, il lavait puis essuyait. Maintenant, ici, Jésus est avec ses disciples. Jésus est leur maître, donc il avait un statut par rapport à eux, et Jésus est leur Seigneur. Et ses disciples le reconnaissaient comme le Messie. Et pourtant, il prend la position de l'esclave. Et c'est juste, là, pour nous, tu sais, on n'est pas habitué à ce format-là de maître et disciple. Ça n'existe plus de nos jours, vraiment. Mais c'était juste impensable, ça ne marchait pas. Cette job était réservée à la personne tout en bas de l'échelle, à la personne la plus insignifiante. Et on voit ça nulle part dans tous les écrits gréco-romains. On parle de cette culture-là de se laver les pieds, de se faire laver les pieds, mais à aucun endroit il est écrit, il est mentionné un moment où un supérieur a lavé les pieds de son inférieur, à part à cet endroit-là. Et là, ils sont à table, ils ont commencé à manger, il n'y a pas de serviteur, mais quelqu'un doit prendre le rôle. Quelqu'un doit dire « Moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire, je vois le besoin, il va falloir que je le fasse. » Et là, c'est Jésus. C'était le dernier qui devait faire ça, mais c'est lui qui s'y met. Et là, c'est tellement un moment spécial, un moment un peu malaisant. Tous les disciples, en fait, ils se pensaient, et puis en fait, par définition, ils étaient au-dessus de cette tâche. C'était la norme. Ils étaient au-dessus de cette tâche, tellement que spontanément, ils ne se sont même pas posé la question « Est-ce que je vais le faire ?» Ça ne leur a même pas traversé l'esprit. Ça leur semblait hors de leur statut et on voit bien la réaction de Pierre qui dit « Non, 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 tu ne vas pas faire ça. Ça n'a pas d'allure, tu ne peux pas me laver les pieds. » Et on peut imaginer alors le silence. Alors que, imaginez un instant, les disciples sont à table et ils savent que Jésus est Dieu, là, c'est le Messie. Et sûrement, ils n'avaient peut-être pas toute la compréhension de qui il était, mais c'était leur maître, leur Seigneur. Puis là, ils sont à table, puis Jésus se lève et il se met à leur laver les pieds. Imagine le silence, les disciples qui se regardent comme « Il ne peut pas nous faire ça, on ne peut pas rester là comme ça. » On entend juste le bruit de l'eau qui tombe dans la bassine. Alors que je connais les besoins de ceux qui m'entourent, alors que j'ai levé mes yeux de mes propres pieds et que là je vois les besoins de mon frère, de ma sœur, il y a un moment où je vais devoir dire « Ok, moi je vais le faire, moi je vais y aller. » Et ce matin, je veux t'encourager à te donner. Je veux t'encourager à investir de ton temps, de ton énergie, de ton argent même, dans le besoin de l'autre, à être généreux à tous les niveaux. Et peut-être que tu dis, non, mais regarde, tu connais pas, tu sais pas l'état de ma vie. Tu sais pas ce que je vis en ce moment. C'est pas la maladie, tu connais pas mon état de santé, mon état financier, ça marche pas. Je peux pas donner. Moi, j'aimerais te dire ce matin, demande à Dieu. Demande à Dieu qui te donne la force. Demande à Dieu qui te donne la foi pour faire ce pas de te donner. Éphésiens 3, 20 nous dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. » Demande-lui, il va faire infiniment au-delà. Peut-être que ça ne te paraît rien, peut-être que tu penses que tu es incapable d'aider, de prendre soin de l'autre, de laver les pieds de l'autre. Mais si tu fais ce pas de foi, Dieu peut faire au-delà infiniment de tout ce que tu penses, même avec une petite affaire. Lorsque Guy arrive le dimanche matin à 8h45 pour placer les chaises, il est en train de nous laver les pieds. Il est en train de prendre soin de nous. Il est en train de permettre que vous et moi, on ait une réunion, on écoute le message, on a un moment dans la présence de Dieu. Il est en train de prendre soin de nous. Guy n'est pas né pour laver des chaises, pour laver non plus peut-être. Guy n'est pas né pour placer des choses, mais quelqu'un doit le faire. Lorsque Manon, on lui demande de faire l'éducation chrétienne, puis elle arrive pour placer la salle, pour faire ça, elle est en train de prendre soin de nous, elle est en train de permettre aux parents qui sont ici d'avoir un moment tout seul avec Dieu. Avec l'Église. Je veux nous encourager ce matin à être généreux de notre temps. Ayons cette vision plus large que ce n'est pas juste une tâche qu'il faut bien qu'elle soit faite dans l'Église. Donnons plus que juste le temps où on est là, ou de toute façon on est là, où ça ne vient pas toucher à mon horaire. Ayant cette vision plus large, je veux prendre soin de l'autre et je sais qu'en Dieu, par la force, par la puissance qui agit en moi, Éphésiens 3:20, par la puissance qui agit en moi, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que moi je vois là. Je suis en train de placer les chaises, mais Dieu va faire des choses. Amen. Il faut qu'on soit conscient de ça, de l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Soyons généreux de notre temps et soyons généreux de notre argent. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ce matin? On ne parle pas nécessairement beaucoup de l'argent dans l'Église. Pourtant, autour de nous, on en parle beaucoup. Et tout ce qu'on fait ici prend de l'argent. La salle, le matériel, ça prend de l'argent. Et des fois, on se dit, on a cette pensée un peu de dire, ah, mais l'Église primitive, là, dans les actes des apôtres, il n'y avait pas d'argent. Tu sais, ils se réunissaient dans les maisons, ils faisaient ça simple, puis on devrait revenir à ça. Mais ça, ce n'est pas vrai. Ça prenait de l'argent. Et puis, on a plusieurs endroits où dans les actes des apôtres, dans les évangiles, où on voit que ceux qui faisaient le ministère, les apôtres et même Jésus, étaient supportés financièrement. On a l'exemple de Paul qui est supporté par l'église de Philippe. Ça nous en parle, hein, dans la lettre aux Philippiens. Il remercie l'église de subvenir à ses besoins, à une partie de ses besoins. Dans Luc 8, on apprend qu'il y a un groupe de femmes qui étaient sûrement des femmes aisées, riches. Et ces femmes-là supportaient le ministère de Jésus. Ça nous dit qu'ils entretenaient le groupe par leurs biens. Ou encore en 2 Corinthiens 8, on voit une collecte pour les chrétiens de Jérusalem qui, eux, vivent de la persécution, donc ils ne pouvaient pas avoir de travail. Il y a un principe dans la Bible et qui va dans le sens du mécanisme qu'on est en train d'apprendre ce matin, de lorsque je prends soin de l'autre, l'autre prend soin de moi. C'est ça l'Église selon le cœur de Dieu. Et ce principe-là, c'est que lorsque tu donnes de ton temps, de ton argent, Dieu s'occupe de toi. Dieu prend soin de toi. Et j'aimerais qu'on lise dans Malachie 3, verset 10. Ça nous dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. » Pour qu'il y ait de quoi là ? De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Soyons généreux. La dîme, c'était la loi dans l'Ancien Testament. Chaque personne était obligée, par la loi du peuple d'Israël, de donner 10% de ses revenus. Et le principe, l'idée, c'était que tu donnes la première chose de ta récolte, les prémices de ta récolte. Dis, je veux honorer Dieu. Et c'était la loi. Et aujourd'hui, on n'est pas sous la loi, mais c'est un principe qu'on applique beaucoup encore dans l'Église. Simplement, je pense, parce que c'est une référence qu'on a dans la Bible. Et 10% ou 5%, peu importe, le principe, je dis bien que c'est un principe, pas une loi, d'accord ? Mais l'idée, c'est de donner librement et avec foi. Que Dieu est fidèle, parce qu'on l'aime, on veut donner. Et le principe n'est pas, souvent on voit des évangélistes, tu sais, le classique évangéliste américain à la télé qui dit « Donne à mon ministère, puis Dieu va t'enrichir, Dieu va te donner. » Le principe, ce n'est pas ça. Le principe de la dîme n'est pas un principe de prospérité. Le principe de la dîme, c'est un principe de foi. De dire « Je vais donner avec joie, parce que j'aime Dieu, je veux l'honorer. Je veux, c'est un privilège pour moi de prendre part à l'œuvre de Dieu. » Alors je vais donner et je crois que tout ce que j'ai me vient de Dieu. Absolument tout. L'air que je respire, ce qui est sur ma table, ma maison, ma voiture, tout me vient de lui. Est-ce que vous croyez ça ? Et à partir de ce moment-là, ben, ça devient plus compliqué de dire non, je ne vais pas donner une part de mes biens. Ça devient plus, ça a de moins en moins de sens de dire non, tout je ne dis pas, j'en ai besoin. Parce qu'il vient de te le donner. Dieu t'a tout donné, il a donné jusqu'à son fils, ce qu'il avait de plus précieux. J'ai ici dans ma poche $5. J'ai fait les fonds de mes tiroirs. $5. Je donne à la première personne qui vient le chercher. Sois béni, Michel. Ah, c'est bon, c'est bon. Michel, est-ce que tu aurais 50 sous, s'il te plaît? Il va me dépouiller. Merci. Michel n'aurait jamais dit non. Il m'aurait jamais dit non, Red, j'en ai besoin. Il va falloir que j'utilise cet argent parce que Red, c'est mon argent. Il n'aurait jamais dit, il n'aurait jamais fait ça. C'est la même chose avec Dieu. Quand tout, tu comprends que tout vient de Dieu, Red, ça n'a aucun sens de dire, non, regarde, je ne vais pas y arriver, j'ai besoin de cet argent-là. Puis oui, on a des besoins. On n'est pas dans le déni, encore une fois, mais c'est un pas de foi. Dieu est fidèle. Lorsque tu donnes, Dieu prend soin de toi. Et si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait ou bien que tu donnes occasionnellement, quelque chose quand tu as du change avec toi ou quoi, je t'encourage à expérimenter la fidélité de Dieu. À comme nous dit le verset qu'on vient de lire, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve de cette manière. Et laisse-moi te dire que c'est sur toi que ça aura le plus d'impact. Parce que j'ai un autre secret ce matin, j'en sors des secrets. L'Église ne sera pas mal prise si tu ne donnes pas. L'Église va continuer, c'est l'Église de Dieu, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui suscite dans les cœurs de donner. Celui qui sera le moins béni de ça, c'est toi. Tu vas manquer quelque chose. Et je voulais vous raconter un peu ça. Élise et moi, ça fait quelques années qu'on a décidé d'appliquer ça. Ça fait plusieurs années qu'on donne notre dîme. Et je peux vous dire que des fois, notre dîme ne ressemblait pas à grand-chose. Okay, on n'a pas toujours été trop riches, d'ailleurs, alors qu'aujourd'hui, on est super riches. c'est une blague. Et je me souviens d'un moment en particulier, un moment où on était mal pris, où ça n'allait pas super bien financièrement. Et on n'en a pas parlé autour de nous, mais dans ce moment-là, il y a eu, dans cette période-là, il y a eu une fin de semaine où ça a été juste incroyable. Et je vais être honnête, il y a eu des moments où on était juste mal pris, puis on a dû attendre juste, et puis il ne s'est rien passé. Mais il y a eu des moments où on a vu la main de Dieu, vraiment, et que c'était clair. Une fin de semaine, ça faisait quelques mois qu'on avait déménagé dans la région ici, et c'était une fin de semaine où il y avait un invité, un samedi, puis dans la fin de semaine, on a reçu 6 dons. On n'avait parlé à personne. 6 dons de personnes de l'Église qui ne s'étaient pas concertées, qui n'étaient pas au courant que l'autre avait donné. 6 dons d'au moins 100 dollars chacun. Puis il y en a peut-être qui s'en souviendront, qui nous ont donné à un moment donné quelque chose. Et je peux vous dire que ça tombait à point, ces choses-là. Et tellement que Élise et moi, à la fin de le dimanche après-midi, on était comme, voyons, ça va-tu s'arrêter? Et c'était minimum 100 dollars, des montants significatifs. Et je me souviens de les derniers qui sont venus, il y en a qui sont venus le dimanche après-midi, comme vraiment à l'improviste. Ils ont toqué chez nous, ils ont frappé chez nous. Puis ils nous disent, tiens, on avait à cœur de nous donner ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se reconnaîtra. Ils sont venus chez nous, et puis tout simplement, Dieu m'a mis à cœur de donner quelque chose. Mais la personne ne savait pas, là, ne savait pas notre besoin. Puis Dieu a fait infiniment au-delà de ce qu'il pouvait imaginer avec ça. Mais Dieu a l'épreuve avec tes finances. Je vais t'encourager à faire ça. Tu vas expérimenter la fidélité, la bonté de Dieu. Et des fois, se donner, donner de son temps, investir dans la vie des autres, c'est un acte qui n'a pas vraiment de logique. C'est un acte extravagant, comme Jésus le fait. C'est un acte hors de... C'était pas logique, il ne devait pas faire ça. Mais Jésus prend soin d'une manière vraiment extravagante. Mais Jésus se met à laver les pieds de ses disciples, il prend la position du serviteur, mais il faut réaliser qu'à ce moment-là, Jésus reste Jésus. Et il y a une twist dans le texte qu'on a lu. Au verset 4, ça nous dit « Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qui se noua autour de la taille. » Puis au verset 12, une fois qu'il a lavé les pieds des disciples, il remit son vêtement et se remit à table. Et en fait, on perd ça dans la traduction, mais le terme utilisé ici pour dire qu'il enlève et qu'il remet son vêtement, c'est exactement le même terme dans le texte original, le même terme, la même formule que quelques lignes plus haut, au chapitre 10, où Jésus dit « Personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est exactement la même façon lorsqu'il dit, lorsque c'est écrit, l'auteur il a mis les mêmes mots. Et je ne pense pas que c'est innocent. Il dit, la même façon qu'il remet, qu'il pose son vêtement et qu'il le remet, il a le pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Et c'est comme si l'auteur nous dit, « Hey, ok, je vais vous raconter quelque chose. Jésus va faire quelque chose d'assez bizarre, là. Jésus va faire quelque chose hors du commun, mais écoutez-moi bien, là, il n'est pas fou. Il reste le même. C'est le même Jésus, avec le même pouvoir que celui de donner et de reprendre sa vie. Il pose et il remet son vêtement. Il a pris la position de l'esclave, une position d'humilité, mais alors que l'esclave, lui, est obligé, Jésus le fait de son plein gré. C'est un acte volontaire. Et le don de Jésus à la croix est un don parfait. Pourquoi ? Parce que c'est un acte volontaire. Personne ne pouvait lui ôter sa vie. On ne lui a pas prise. Personne n'avait le pouvoir de lui prendre. Mais il s'est donné volontairement par amour pour nous. Et j'aimerais te dire que tu peux donner parfaitement. Tu peux faire un don parfait, à la hauteur de qui nous sommes. Mais tu peux faire un don empreint de grâce et d'amour. Tu peux donner librement. Lorsque tu donnes de cette façon volontairement, non pas parce que il faut bien donner, non pas parce que c'est une obligation ou parce que ma religion le demande, lorsque tu donnes avec joie et compréhension du besoin qui t'entoure, il y a une puissance illimitée à ce que Dieu peut faire avec ça. Tu vas te mettre à donner et à donner. Quand tu commences comme ça avec cette compréhension. Et Jésus dit au verset 16, vraiment, je vous l'assure, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Et tu le sais, tu es conscient que tu te places en dessous de l'autre. Mais tu ne deviens pas esclave. Tu ne deviens pas esclave de l'autre. Tu ne deviens pas soumis au moindre de ses caprices. Mais parce que tu sais pourquoi tu fais ça. Parce que comme Jésus dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Mais parce que tu sais qui tu es et pourquoi tu fais ça. Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Il y a une puissance incroyable là-dedans. Il y a une puissance incroyable dans une église qui se met au service les uns des autres, par amour, à l'image de Jésus. Et Dieu va toucher des vies. Dieu va transformer des vies. Dieu peut faire au-delà infiniment, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et moi, je suis convaincu que si nous, là, Nouvelle Vie, Charlevoix, si on se met à se laver les pieds les uns des autres, si on prend soin les uns des autres, Dieu va faire des grandes choses. Et vous savez quoi ? Ce qui se passe quand on fait ça, c'est que ça attire les autres. Ça attire les gens. C'est un témoignage puissant. Prendre soin les uns des autres, porter les fardeaux les uns aux autres. C'est un témoignage puissant. En Jean 13, verset 34, ça nous dit juste après, Jésus nous dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous comme je vous ai aimé. » Aimez-vous les uns les autres, c'est un méchant défi. Comme je vous ai aimé. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Amen. On va juste terminer en priant. Seigneur Jésus, on veut suivre ton exemple. On veut tellement plus être comme toi. Seigneur, tu as tellement fait pour nous. Tu es tellement un don parfait. Et à notre tour, on veut être ce don parfait. Seigneur, donne-nous de considérer ce que tu as fait afin que donner nous soit plus facile, en fait. Lorsqu'on considère ce qu'on a reçu, je crois qu'on ne peut pas juste regarder à nos propres pieds. Seigneur, aide-nous à lever les yeux. Aide-nous à voir ce qu'on peut apporter dans la vie des autres. Seigneur, augmente notre foi pour que lorsqu'on se sent incapable, on ne voit pas qu'on puisse être d'une quelconque utilité pour l'autre, augmente notre foi et qu'on puisse faire ce pas de donner du temps, de prier pour l'autre, de prendre de ses nouvelles, de donner, d'investir dans la vie de l'autre. Augmente notre foi pour ça, pour voir que tu peux te servir de nous et que tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Seigneur, on veut être l'Église selon ton cœur. On ne peut pas juste arriver et puis manger. On veut prendre soin les uns des autres. On veut repartir les pieds propres, puis avoir du fun ensemble, avoir une communion fraternelle, pas être juste là et c'est pas une question de, on veut pas être juste utilisé ou être les esclaves soumis aux caprices les uns des autres. Seigneur, on veut prendre soin les uns des autres, être là les uns pour les autres. Seigneur, donne-nous d'être attentifs, donne-moi d'être attentif aux besoins des autres. Seigneur Jésus, on veut te suivre, tu es l'exemple parfait pour nous. Quel exemple, Seigneur. Seigneur, on veut te suivre. On veut te suivre jusqu'au bout, Seigneur. Viens maintenant bénir le reste de cette journée, la réunion qu'on va avoir. Seigneur, on veut travailler à cette église. On veut juste, on croit que c'est le plan que tu as pour nous, un plan parfait. Et viens bénir cette journée, bénir ceux qui doivent rentrer, faire de la route. Et on te remet aussi pasteur André et Céline, qui sont à cette île. Garde-les sur le chemin du retour, Seigneur. Permets qu'ils aient encore un moment béni dans ta présence. On te prie pour ce groupe qui est notre église aussi, ce groupe de quelques membres à cette île, Seigneur, que tu puisses faire grandir, que tu puisses pourvoir à un ouvrier là-bas qui va prendre soin d'eux, un berger, Seigneur. Merci pour cette belle famille qu'on est. L'église ici, le site de Nouvelle Vie Charlevoix, mais merci parce qu'on prend part, on voit l'église plus grande. On voit l'église dans sa dimension plus grande. Seigneur, on fait partie de sa nouvelle vie et l'Église aussi au sens plus large, Seigneur. Merci. Merci, Jésus. Et on te donne gloire. Amen. Amen. Amen.